பாடுக்குள்ள
écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 2 mars 2015 avec Jean-Pierre, Michel dans les studios, Robert en duplex, oui autant le dire à l'antenne, bon anniversaire Robert, ça tombe que c'est son jour anniversaire aujourd'hui, donc vous allez voir, il va être excellent dans son Canu Info. Allez, je dis juste en introduction un petit mot un peu personnel qui n'est pas ce que vous attendez, mais le 7 mars 1915, donc le vendredi ou le samedi de cette semaine, un siècle plus tôt, mon grand-père décédait à Saint-Saint-Goël à 19h des blessures qu'il avait reçues dans cette abominable guerre de 14-18. Donc pour moi, c'est une date importante qu'un siècle après, on puisse évoquer un parmi ces 1 800 000 morts de cette abominable guerre. Des guerres, il y en a toujours, et on abordera le sujet, bien sûr, dans notre rubrique internationale qu'on va ouvrir tout de suite. Peut-être avec toi, Robert, un sujet...
Et peut-être, oui, avec cette situation... pour le moins paradoxal, sinon scandaleuse, à Washington, New York, Washington, où Netanyahou se comporte comme il l'a fait à Paris il y a quelque temps, au moment des meurtres du 11 janvier. Il est à New York, il est à Washington, et il a décidé de s'adresser d'abord ce qu'on appelle là-bas le lobby juif, qui là-bas n'est pas considéré comme un terme, on va dire, antisémitique, antisémiste, on peut dire le lobby juif. Bon, il s'adresse aux juifs américains, états-uniens, et ensuite il a décidé de parler devant le Congrès. Alors évidemment, le Congrès a une majorité républicaine, donc il était peut-être difficile pour Obama de s'y opposer, mais il n'a même pas été, semble-t-il, tenu au courant. Et cette situation, effectivement, à 15 jours des élections israéliennes, montre combien ce personnage, et d'ailleurs il est assez lui-même représentatif de l'arrogance, c'est un mot que De Gaulle avait utilisé, des dirigeants israéliens, hélas, qui aujourd'hui se comportent effectivement d'une manière insupportable au nom de ceux qui, chez eux, dans les générations de guerre et même avant, ont connu la Shoah, le génocide. Donc c'est une situation internationale qui que provoque en permanence Israël. On l'a dénoncé ici à l'antenne de Canu, comme beaucoup de médias qui regardent les choses de près et en face, quand il est venu intervenir en France, donnant des leçons, disant même que les juifs de France devaient rentrer en Israël. Alors on attend qu'il demande aux juifs américains de rentrer en Israël, et il doit sans doute le faire d'une manière discrète, mais il n'empêche que c'est vraiment quelque chose au plan diplomatique, au plan international, et pour améliorer justement ces relations et permettre que les Palestiniens et que toute l'Afrique vivent autrement qu'à travers cette humiliation qui passe donc par humiliation de ceux qui payent. De toute façon, ils continueront de payer. C'est ce que Netanyahou demande aussi bien à Hollande qu'à Obama. Payez, vous occupez pas du reste.
Oui, et ils payent bien les Américains. Je crois que c'est 3 milliards par an d'aide militaire que Israël reçoit des États-Unis. Voilà,
oui.
Michel.
Oui, enfin, juste rajouter que la venue de Benjamin Netanyahou, elle arrive pour plaider en fait pour Israël, mais surtout pour contrecarrer donc la position qu'a adoptée l'administration Obama dans l'affaire iranienne, à celle de commencer des pourparlers, hein, qui sont assez compliqués jusqu'à présent, mais qui ont le mérite d'exister. Hein. N'oublions pas que les relations entre les États-Unis et l'Iran n'existait pas il y a encore quelques années, et on a commencé donc à se parler donc directement, donc pas encore au plus haut niveau de l'État, mais par le biais d'émissaires, ce qui n'est pas rien, et notamment parler du programme nucléaire iranien. Donc chacun y va un peu de ses atouts sur ce dossier-là, et c'est là qu'arrive le père Netanyahou, qui lui plaide les sanctions, le renforcement des sanctions contre l'Iran, surtout ne pas parler avec l'Iran, isoler l'Iran et faire pencher la balance auprès de la Chambre donc des représentants, pour que ceux-ci contrecarrent donc les velléités voilà, si j'ose dire, d'ouverture vis-à-vis de l'Iran de la part de l'administration Obama. Et c'est en ce sens-là que c'est un scandale, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait imaginer, hein, nous, Vladimir Poutine venant s'adresser à nos députés et plaidant effectivement l'assouplissement des sanctions, ou enfin, du moins ou le retrait des sanctions contre la Russie, et ceci alors que l'Élysée et Matignon le condamnent et ne le permettent pas. C'est-à-dire que voilà, c'est ce personnage Netanyahou a cette capacité de venir, de se faire inviter officiellement, hein, par le représentant républicain à la Chambre des représentants, mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on voit bien que s'il peut le faire, c'est qu'il a une assise, et son assise, comme tu le disais, c'est le lobby juif, mais par le biais de l'AIPAC, donc de l'Amérique Israel Politic Affairs Committee, donc qui est l'équivalent, enfin, de ce qu'est aujourd'hui le CRIF en France, hein, c'est-à-dire un organe sioniste de renforcement donc de l'alliance entre les États-Unis et Israël, et donc de la politique israélienne dans la région, quel que soit le prix en payer. Et c'est en ce sens-là, effectivement, que c'est une ingérence directe donc dans l'exécutif des États-Unis que c'est arrivé de Barack Obama. Et chose étonnante que pas grand monde, finalement, dans le milieu éditorial français, sont émeus, quoi. C'est-à-dire, jamais on accepterait, effectivement, je prenais l'exemple de Poutine, mais qui que ce soit vienne effectivement plaider contre les directives donc de l'État. Imaginez un peu, imaginez la position donc de on va dire de l'opposition qui soutiendrait Poutine et qui inviterait Poutine donc à s'exprimer devant l'Assemblée donc des députés, l'Assemblée du peuple. C'est ça va chercher loin quand même.
Oui. Alors, sur ce sujet,
un mot, signaler que vient de paraître un remarquable écrit de Pierre Stamboul. Pierre Stamboul, c'est l'un des porte-parole principaux de l'Union juive française pour la paix et qui, naturellement, conteste toute la politique depuis longtemps d'Israël dans la région par rapport aux Palestiniens et qui a titré son texte de, je crois que c'est, je ne l'ai pas en tête, mais c'est Israël contre les Juifs. Et c'est une remarquable démonstration. Il l'a fait déjà, c'est pas nouveau, c'est connu, c'est argumenté, c'est solide, c'est pas du tout un propos incantatoire contre les Juifs. Au contraire, c'est montre comment les Juifs aujourd'hui sont victimes de l'État d'Israël.
Voilà, eh bien, Poutine, on en parlait. On va revenir à lui et à Nemtsov. Poutine a-t-il encore dessoudé un de ses opposants? C'est une question qu'on peut se poser. L'opposant a-t-il été liquidé par d'autres opposants à la fois à la politique de Poutine et à d'autres choses? À l'heure qu'il est, il est impossible de le savoir. En tous les cas, Poutine a dit qu'il s'occupait personnellement de l'enquête. On peut être tranquille pour qu'elle n'aboutisse pas avec les méthodes habituelles pratiquées là-bas. Ce n'est pas le premier homme politique, ce n'est pas le premier journaliste qui est assassiné. Dans des conditions, on ne saura sans doute non plus jamais, mais ça a engendré quand même des réactions dans la population, puisque c'est des dizaines de milliers de personnes, on ne sait pas vraiment combien, qui sont venus manifester contre cette atteinte à la liberté d'expression, au lieu de venir manifester contre la politique de Poutine, comme le rassemblement était prévu avant l'exécution de Nemtsov. 56 ans, ce type qui avait été une carrière un peu tumultueuse et controversée, qui a été ministre d'Elstine, et puis qui là faisait un peu d'agitation sans pour autant avoir derrière lui une partie de la population importante. Quoi.
Alors on peut dire.
Oui, c'est Nemtsov qui avait, sous les ordres de d'Eltsine, on peut dire, préparé la répartition des richesses soviétiques, essentiellement russes, en l'occurrence, entre ceux qui allaient devenir les plutocrates et puis les hommes d'argent aujourd'hui qui défrayent la chronique et qui sont les maîtres à penser et surtout à agir dans cette Russie. Et ce qu'il faut peut-être se poser la question un peu par rapport à ton interrogation, c'est, comme on dit dans la police ou chez les journalistes, à qui profite le crime? Alors, à l'évidence, le crime ne profite pas du tout à Poutine. Il a tout à y perdre dans ce crime. Alors, si, y compris dans son entourage, il y a des gens qui lui en veulent, c'est-à-dire qui jouent sur les deux tableaux, alors effectivement, ils ont gagné parce que c'est un acte qui déstabilise Poutine au plan international, comme peut-être moins au plan local, parce qu'il continue effectivement de bénéficier grosso modo de l'appui très large de la population, et sans qu'il pratique une dictature qu'on lui reproche en Occident. Certes, quelquefois le niveau de développement des droits de l'homme ne sont pas ce qu'ils sont peut-être en Occident. Bon, et encore, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il n'empêche que Poutine, il fait le minimum démocratique qu'on peut exiger d'un État qui se prétend tel, surtout quand on sait d'où qu'il vient et quand on sait qu'effectivement la Russie et l'Union soviétique ont été dépecées, les oligarques ont tout pris, et ce Nemtsov, bon, c'est peut-être pas un règlement de compte qui peut remonter à 20 ans, mais a été effectivement un agent actif de ce dépeçage.
Oui, on connaissait Vladimir Poutine autiste, On connaissait aussi Vladimir Poutine, l'homme le plus riche de la Terre. On connaissait Vladimir Poutine, l'homosexuel refoulé. Voilà-t-il pas qu'on a trouvé le tireur d'élite qui, depuis le Kremlin, avec son fusil de précision Dragunov, donc a tiré 4 balles dans le dos donc de l'ennemi donc politique juré de Poutine, Boris Nemtsov. Enfin, je plaisante, mais c'est un peu comme ça que la presse occidentale nous présente les faits. Hein. Boris Nemtsov comme la figure de proue de l'opposition à Vladimir Poutine. Alors, revenons un peu sur terre. Hein. Nemtsov ne recueillait aux dernières élections. D'ailleurs, il n'avait plus aucune fonction, hein, puisqu'il n'a pas réussi à être élu. Son dernier parti en date avait recueilli moins d'1% des voix. C'est dire effectivement son isolement. Il avait pour parrain, pour ami Margaret Thatcher, du temps où il était gouverneur de Nijni Novgorod dans les années 90, comme tu disais, où il dépeçait la Russie et il vendait à ses copains. Il a été ministre donc de l'énergie, hein, un poste hautement stratégique en 1995, où effectivement il privatisait à tour de bras les concessions gaz, minerais et j'en passe à ses copains. Ses copains, il faut les nommer, c'est Khodorkovsky, c'est Berezovsky, en tout cas c'est tous les plus grands oligarques qui ont mené à la ruine ce pays. Donc restons un peu sérieux, tu l'as dit, à qui profite le crime? Certainement pas à Vladimir Poutine. Qui a pu tuer cette personne qui, politiquement parlant, n'existait plus sur l'échiquier politique, hein, russe. C'était fini, hein. Il ne représentait plus rien. Il était aidé par quelques officines occidentales, mais la figure donc, de proue de l'opposition, c'est Navalny pour Poutine. C'est pas Nemtsov. Donc, il n'avait absolument rien à craindre. Donc, peut-être, vu que Boris Nemtsov, donc, depuis maintenant un an, soutient activement le gouvernement de Porochenko. Il avait été en son temps, lors de la Révolution Orange en 2004, conseiller de Yushchenko. Hein. Donc il avait des positions qui allaient systématiquement à l'encontre de la position du Kremlin. Peut-être que des nervis de l'extrême droite russe nationaliste lui ont fait son compte. Ça, c'est dans l'ordre du possible. Le pouvoir, directement, il n'avait aucun intérêt à le faire. Donc quelques groupuscules d'extrême droite russe, certainement. Ou alors, c'est une mise en scène, là aussi, hein, comme il y en a eu d'autres, pour, une fois de plus, essayer de pointer... et puis, c'est, voilà, la mise en scène, c'est le pont sur la Moscova, et en arrière-plan, le Kremlin. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Pour, encore une fois de plus, noircir le tableau de l'ogre de du Kremlin, quoi. Soyons un peu raisonnables sur cette histoire-là. Donc il va falloir attendre de voir exactement ce qu'il en est. Peut-être que là, pour le coup, Poutine a tout intérêt à, donc, à ce que la lumière soit faite sur les commanditaires ou sur les responsables donc, de ce meurtre, quel qu'il soit. Hein, mais peut-être qu'effectivement, à défaut de trouver un coupable, ils vont en trouver un d'office. Hein, ça aussi, hein, le pouvoir poutinien sait le faire. Mais de là à dire qu'il avait un intérêt donc, à la mort de Boris Nemtsov, certainement pas. Voilà, on est toujours dans ce contexte, c'est ça qu'il faut surtout remarquer, hein, où il y a un tir de barrage de toutes les officines occidentales. Hein, on l'a vu depuis Londres la semaine dernière, depuis Washington avec Kelly, depuis la France. Tous les éditorialistes donc, du monde occidental s'acharnent maintenant et ça va crescendo contre le pouvoir Poutine et surtout depuis Minsk. Apparemment, la trêve hein, qui commence à se concrétiser sur le terrain ne plaît pas tant que ça donc aux occidentaux. Quand je parle aux occidentaux, aux anglo-saxons. Hein. On a eu l'ancien donc directeur des services secrets britanniques qui a dénoncé Poutine et qui a dit ouvertement que maintenant qu'il n'est plus en fonction, que nous sommes en guerre stratégique, en guerre de position vis-à-vis des Russes et les Russes donc sont en train de marcher sur nos plates-bandes. plate-bande, on voit bien, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que l'Ukraine, c'est une plate-bande britannique, américaine? Je ne sais pas, il faudrait que les choses soient un peu plus claires. Mais il est clair que il faut dégonfler à tout prix la baudruche. Là où on a trouvé les accords de Minsk 2, où sur le terrain politique pour l'Ukraine, on peut essayer d'espérer d'avoir une solution politique, une autonomie pour cette région qui est le Donbass, qui est russophone, pro-russe, et où, dans le, au sein même de, du gouvernement ukrainien, donc il n'y a pas du tout de rattachement à la Russie. Là, certains, effectivement, je cite, hein, à Londres et surtout à Washington, n'ont pas vu donc ce déplacement de Merkel et de Hollande d'un bon œil et commencent effectivement de nouveau à chercher un peu à remuer la merde et à accentuer donc la pression et à vouloir accentuer aussi les sanctions qui vont avec, hein, sur la Russie. Donc si on cherche la confrontation coûte que coûte, eh bien on voit bien que il y a des gens qui sont prêts à ça en Occident. Et donc surtout ne rentrons pas dans ce jeu, parce que on ne sait pas effectivement à quoi ça va mener. Pour l'instant, on est dans une forme de réactivation de cette guerre froide, mais on est surtout dans une incompréhension totale de la psychologie, pas seulement de Poutine, mais des Russes dans leur ensemble. Ces sondages, hein, et ces sondages qui ont été menés par des instituts de sondage occidentaux, hein, 15% des Russes, et sondage de la semaine dernière, 15% des Russes font confiance à l'opposition. 15%. Donc, c'est-à-dire que même sous les sanctions, la grande majorité des Russes, quoi qu'on en pense, continue à soutenir donc Vladimir Poutine. Donc ne persignifions pas effectivement la politique russe à Vladimir Poutine. C'est la politique aussi dans sa majorité de ce que ressentent vraiment les Russes. Et donc n'allons pas continuer donc à envenimer à travers donc le conflit ukrainien donc ces tensions qui peuvent mener vraiment au pire.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui sur l'Ukraine, justement, puisqu'on en parle, sur l'évolution des choses? Il n'y a pas tellement d'évolution. Enfin, tu l'évoquais avec le deuxième cessez-le-feu qui a l'air d'être un peu plus respecté.
Tout à fait. Ce qu'il faut noter, c'est ça, c'est que le cessez-le-feu, ça se joue sur les retraits des armes lourdes. Hein. Mais en tout cas, déjà, ce qui est effectif, c'est que le cessez-le-feu est respecté. Alors aujourd'hui, on a eu le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui a émis un rapport nous disant qu'il y avait plus de 6000 hommes, de civils aussi, et hommes en armes qui sont morts donc en Ukraine depuis le début des événements, voilà un an, et accuse globalement donc les forces pro-russes, mais aussi en partie le gouvernement donc ukrainien et ses troupes pas avoir respecté donc la convention de Genève. Voilà ce qu'il y a pour le tableau. Pour l'instant, ce qu'il faut noter quand même, il faudrait s'en réjouir, et c'est là où on voit que nos commentateurs politiques et nos analystes, finalement, hein, au lieu de se réjouir de cet état qui est la cessation des hostilités sur le terrain, on continue donc à nous faire discréditer donc la Russie et à nous faire croire effectivement que tout ce qui se passe dans le Donbass, c'est la faute de Poutine. Il n'y aurait pas de Poutine, il n'y aurait pas eu de soucis dans le Donbass. C'est totalement faux. C'est totalement faux. N'oublions pas que dans cette région, il y a une population russophone qui se sent pas totalement ukrainienne dans le sens national du terme. Ils sont ukrainiens par l'espace géographique qu'ils habitent. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les quelques vidéos reportages, hein, lorsque ils ont repris les positions à Debaltseve, il n'y en a pas un seul qui ait souillé des pieds le drapeau ukrainien. Ils l'ont retiré, plié, mais pas souillé. C'est-à-dire que, quelque part, c'est aussi chez eux, mais ce n'est pas l'Ukraine des nationalistes de l'Ouest. Hein. Donc, c'est un combat qui doit continuer à se mener au niveau
politique à Kiev, mais pas sur le terrain, surtout avec un gouvernement et une armée ukrainienne qui n'en a pas les moyens. Et tout ce qu'on lui promet à ces gouvernements, à cette armée, c'est justement des aides militaires substantielles qui viendraient qui des Britanniques qui viennent de déclarer qu'ils allaient donc envoyer des hommes pour former l'armée ukrainienne, qui des Américains qui s'apprêtent à voter, du moins sur proposition des Républicains, une aide donc de 2 milliards en armement. Donc n'allons pas sur ce terrain-là, et nous, si on est intelligent en France, il faut à tout prix, et surtout nos politiques, il faut à tout prix se couper. Donc ça a été un premier pas, hein, les prérogatives de Hollande, Merkel allait dans ce sens-là, mais il faut à tout prix donc ne plus rentrer dans le jeu des anglo-saxons vis-à-vis de la politique du pire vis-à-vis de la Russie en Ukraine.
On dit un mot de la nouvelle coalition gouvernementale en Moldavie. C'est encore une zone où, pour le moment, c'est assez tranquille, mais où aussi, entre le rapprochement avec l'Union européenne d'un côté et des populations russophones de l'autre, il pourrait y avoir des tensions qui se développent, non ?
Mais tout à fait, oui. Là, on est dans le même cas. C'est-à-dire que vouloir des politiques de coopération... sans tenir compte de cette réalité qui est la Transnistrie, donc avec une population russophone, hein, il y a eu un conflit, n'oublions pas, qui est gelé, et la Transnistrie, si petite qu'elle est, elle est toujours armée, elle est toujours soutenue logistiquement par la Russie, et là aussi, si on continue, si on adopte le modèle ukrainien, à savoir de celui de rapprochement mais de l'Union Européenne, mais qui passe aussi par une demande d'intégration à l'OTAN, parce que n'oublions pas, c'est ça aussi qui a mis de l'huile sur le feu, eh bien, on ira effectivement sur un conflit chaud en Moldavie. Donc, à un moment, quel est le rôle de Bruxelles ? Bruxelles, déjà, ça brûle à l'intérieur. Ça brûle en Grèce, ça brûle en Espagne. Ça va bientôt brûler en France et en Italie, d'un point de vue économique et social. Et pour tout dérivatif, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose des intégrations de zones vastes, comme l'Ukraine, et peut-être la Moldavie demain, et je ne sais pas quel autre pays, peut-être la Géorgie, hein, tous les pays qui, d'un point de vue géostratégique, correspondent un peu à la politique que veut mener les États-Unis en vue de l'isolement de la Russie. C'est sous couvert d'élargissement, sous couvert de vendre l'Europe, finalement, on fait le jeu, là aussi, des ambitions stratégiques des États-Unis.
Robert, tu voulais aborder un autre sujet ?
Autre sujet, je voulais parler de l'accord possible et probable d'Alger. Alger redeviendrait-elle une des grandes capitales diplomatiques ? Toujours est-il que c'est à Alger qu'on tente de trouver un moyen d'amener la paix dans le nord Mali. Alors, ces discussions qui duraient depuis plusieurs mois n'étaient pas faciles, parce que les groupes sont tiraillés entre plusieurs courants, à la fois des courants idéologiques et des courants culturels, ou voire des courants territoriaux. Et on serait arrivé à une situation de stabilisation. Alors, pour l'instant, les représentants de l'Azawad, évidemment, c'est un peu la partie principale de ce qui fut l'insurrection depuis longtemps déjà. Et puis la guérilla, l'Azawad qui compte dans ses rangs le groupe principal du MNLA, n'a pas encore signé les accords. Toutefois, il est dit à l'Azawad que avant de signer, il voulait effectivement essayer de consulter, comme on fait dans les pays démocratiques, comme font par exemple les syndicats. Avant de signer un accord, ils consultent leur base, pour reprendre l'expression classique. Alors, consulter la base, c'est pas facile, hein, dans cette région où la dispersion est grande et les moyens de communication, il y a toujours effectivement Internet, le téléphone et tout ça existe dans ce Mali-là, mais alors on est là, on est effectivement on peut penser que ça peut réussir, et je parlais donc du rôle que prend, alors même si Bouteflika est hors course, il n'empêche qu'il a sans doute suffisamment de possibilités soit à travers les personnes de son entourage, d'intervenir sur les grands enjeux de l'Afrique. Il faut rappeler que, par exemple, c'est l'Algérie qui a été chargée, je ne sais plus avec quel autre pays, de tenter de faire qu'en Libye, le chaos n'aille pas au-delà de ce qu'il est déjà aujourd'hui. Évidemment, on a l'impression aujourd'hui que c'est mission impossible.
Voilà. Peut-être revenir un moment quand même sur ce qui se passe en Irak et cette attaque annoncée de la ville de Tikrit, 140 000 habitants, région sunnite, qui est censée être... Les troupes gouvernementales vont tenter de la reprendre avec 35 000, annonce-t-on, militaires qui sont plutôt chiites, voire chiites iraniens. Ce combat comme un prélude à la tentative de reprise de Mossoul, la plus grande ville encore, où on a eu les informations sur les destructions d'objets du musée pré-islamique. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça, Michel ?
On peut penser de tout ça que le gouvernement de Bagdad se sent en capacité donc, de reprendre du terrain sur l'État islamique. N'oublions pas que à Tikrit, comme tu l'as dit, hein, c'est une Tikrit et sa région. Est une ville irakienne sunnite. Donc l'armée, qui est maintenant composée quasi exclusivement de chiites, va être très malvenue. Elle sera d'autant malvenue qu'elle sera accompagnée de milices chiites, avec des volontaires iraniens dans ses rangs, qui ont comme une sorte de désir de vengeance, car n'oublions pas, lorsque Tikrit est tombé aux mains de l'État islamique, il y avait une garnison de jeunes recrues, de soldats, principalement chiites, et qu'ils ont tous été faits prisonniers et liquidés.
Oui, 1700, je crois.
Oui, liquidés. Donc la crainte de la population aussi légitime, de la population sunnite dans cette région-là, c'est que cette offensive, officiellement, pour déloger l'État islamique, soit aussi une forme de vengeance. Et on sait très bien comment ça se passe, ce type de vengeance. Donc on peut réellement craindre pour que les combats ne touchent pas exclusivement donc des gens en armes dans la région. Et c'est vraiment problématique et c'est vraiment un casse-tête aussi pour les Occidentaux, ce qui se passe. À savoir que la représentation politique des sunnites irakiens n'est plus représentée. Les seuls qui ont réussi à refaire vivre un peu et donner, si je veux dire, du baume à l'âme des sunnites, c'est l'État islamique, hein, qui a restauré un peu la souveraineté des territoires majoritairement sunnites en Irak. Vous voyez le problème. Autant vous dire, par exemple, que vous n'avez pas là l'approbation de Riyad, hein, qui avait en son temps soutenu l'État islamique, qui a créé un peu ce monstre et qui aujourd'hui, ce monstre a tendance à se retourner aussi contre ses intérêts. Mais dans le même temps, il n'est pas à même de donner son aval donc à Bagdad pour qu'il réduise totalement donc l'État islamique. C'est-à-dire maintenant c'est la peur du vide et c'est l'incapacité donc pour les sunnites au niveau politique de se structurer et de faire valoir leurs intérêts. Juste à rappeler ce chiffre aujourd'hui, quand on parle d'arabes sunnites, donc ceux qui ont exercé le pouvoir, hein, c'était le cas de Saddam Hussein et de ses prédécesseurs, ils comptent aujourd'hui pour 25% de la population irakienne, un quart, hein. Donc ils sont loin, très loin de faire la majorité, et ils sont très très loin démocratiquement donc de reprendre le pouvoir, sachant que c'est le vote clientéliste qui prime aujourd'hui en Irak. Dans ce jeu-là, ceux qui se frottent les mains aussi sont les Kurdes dans le nord, qui en délogeant aussi l'État islamique, risquent de récupérer quelques puits de pétrole qui vont faire grincer plus d'une dent, et notamment les Turcs, hein, puisque tous ces gisements qui sont entre Erbil et Mossoul sont convoités qui par les Irakiens sunnites, qui par les Kurdes. Donc on voit bien un peu le côté un peu inextricable, hein, de si on joue les uns, ça va pas faire les intérêts des autres, et ça va faire beaucoup de mécontents. Mécontents du côté d'Ankara, mais mécontents du côté de Riyad, d'où un peu cette politique des États-Unis qui n'est pas très claire non plus sur ce dossier-là. Et tout se fait aussi conjointement, enfin c'est là aussi on peut se poser la question de savoir si ça ne fait pas conjointement aussi avec Damas, puisque Damas aussi a lancé une offensive dans le nord-est du pays, donc dans cette zone, la province de Lasaka, là où la semaine dernière des chrétiens avaient été enlevés donc, par l'État islamique, en vue de reprendre cette province conjointement là aussi avec les forces kurdes syriennes. C'est une nouveauté. Hein. Et là aussi, il semblerait que les choses aient un peu changé, c'est-à-dire que Bachar al-Assad est prêt à négocier apparemment avec les responsables kurdes et est prêt à leur accorder dans le cas où de nouveau un État syrien unifié renaîtrait, une autonomie plus que substantielle donc, pour les Kurdes syriens.
Oui, les armes n'ont pas fini de parler dans tout ça.
Apparemment, hein. Non.
Robert, on va bientôt clore cet international. Si on veut dire quelques mots de national, tu veux encore traiter un sujet ou...
Signaler que, et s'interroger en même temps, samedi, le Parti communiste grec, enfin, il y a plusieurs niveaux chez les communistes parce qu'ils étaient divisés, ce qu'on appelle les communistes orthodoxes du parti principal grec, appelaient une manifestation qui a eu un certain succès, et cette manifestation à Athènes avait pour objet de dénoncer l'accord intervenu la semaine précédente à Bruxelles, ce qu'on appelait le compromis selon les uns, ou la reculade selon les autres. Et d'ailleurs, c'était sur ce thème qu'ils ont fait cette manifestation. Alors évidemment, la situation est très difficile parce que les Grecs, effectivement, étaient le couteau sous la gorge. Ou bien, effectivement, vous n'aurez pas les 7 milliards. Donc, si vous ne confirmez pas que vous ferez des réformes, et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus qu'à une hypothèse, c'était de quitter l'euro, et tout ce qu'on pouvait... C'était effectivement l'ultimatum. Bon, les Grecs ont trouvé... Tsipras et Varoufakis ont trouvé un compromis. Bon, c'est un compromis effectivement difficile. Difficile sans doute à accepter, difficile quand on voit que, par exemple, la presse occidentale de droite en majorité se réjouit de cet accord. Donc forcément, ça, on comprend bien le sens. Et alors, on aura l'occasion d'en reparler souvent sur les antennes de Canu. Mais moi, je rappelle simplement cette formule de Lénine. Alors, je ne me souviens plus si c'est à l'occasion de la mise sur pied de la nouvelle économie politique ou au moment où il a passé un accord avec la Prusse pour éviter la guerre. Si Lénine disait, deux pas en arrière pour pouvoir faire trois pas en avant. Deux pas en arrière, trois pas en avant. C'était la formule léniniste. Alors, Tsipras est-il léniniste? Et nous le saurons dans les prochaines semaines.
Allez, pause musicale sur fond d'actualité nationale.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les
cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenaient les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessaient le prenaient les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
Vous écoutez bien Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 2 mars 2015. Georges Brassens, tout le monde aime Georges Brassens, hein, donc là c'était « Le temps ne fait rien à l'affaire ». Oui. L'événement auquel ça fait référence, c'est les enfoirés, qui sont vraiment des enfoirés, hein, pour le coup, et qui, avec cette chanson qui fait polémique autour du thème, c'est-à-dire une opposition... aux jeunes, une opposition un peu fabriquée par des gens qui sont complètement installés dans le système et qui leur reprochent de ne pas s'investir et croire en l'avenir, quoi. C'est les limites du showbiz compassionnel. Pardon. Et puis, de toute façon, quand on va chercher Coluche pour se donner une référence dans tout ça, je trouve qu'elle est mal choisie, ce mec qui était quand même... qui s'est offert un championnat du monde de moto à 600 à l'heure. C'était quoi ça? D'un ridicule absolu. Enfin bon, je ne suis pas pro-enfoiré, je ne suis pas pro-Coluche non plus, sans compter que chaque fois qu'on met la charité à la place de la justice sociale, c'est gonflant et qu'il y a d'autres combats plus efficaces à mener. Robert, là-dessus ou sur autre chose plutôt?
Ah oui, je vais évoquer la situation ubuesque du débat politique électoral qui se prépare en France, ubuesque, parce qu'on va voter pour entériner les nouveaux conseils généraux qui s'appellent maintenant des conseils qui s'appelleront des conseils départementaux. Mais alors, bon, si certains aspects formels du contenu du mode électoral sont intéressants, comme la parité, etc., et puis peut-être moins de cantons, moins de découpage cantonal, il n'empêche que sur le fond, c'est extraordinaire parce que on ne sait pas ce que seront les compétences de ces conseils départementaux. Et ce débat sur la compétence des conseils départementaux va démarrer au Parlement en ce moment. Et ça ne sera de toute façon, ça n'aboutira pas avant les élections qui ont lieu le 22 et le 29 mars. C'est-à-dire que les Français et les Françaises sont appelés à voter, certes sur une structure, certes, qui va continuer à exister. Alors d'un côté, on donne la garantie que si les conseils départementaux vont avoir encore des compétences, d'autres disent que non, parce que c'est la tendance lourde du néolibéralisme actuellement et de faire remonter les compétences à des niveaux supérieurs, c'est-à-dire élargis, que ce soit la région, métropole, on connaît la question, elle est en débat à Lyon, enfin elle a même été résolue, les intercommunalités, tout ça, donc c'est extraordinaire parce que dans la campagne, les candidats sont, si on leur pose la question de fond, mais alors si je vote pour vous, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Et le candidat qui va être obligé de dire, je ne sais pas trop pour l'instant. Alors c'est ubuesque, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire cet épisode de la politique française.
Sans compter que les sondages vont bon train et que les combinaisons des deuxièmes tours sont aujourd'hui envisagées dans tous les sens, avec, semble-t-il, FN qui devrait être présent comme jamais il ne l'a été dans les têtes dans les résultats électoraux. 22 et 29 mars, néanmoins pour nos auditeurs lyonnais, c'est pas la peine qu'ils se mobilisent. Colomb a du temps devant lui, puisque ici on votera au mois de décembre au régional et que avec le coup de la métropole, il conserve son avantage d'élus socialistes qui vont rester en place pendant un bon moment. Voilà, d'autres sujets. Ben, Sivens, oui, Sivens, où ça chauffe un petit peu, où elle approche à la fin de la semaine des décisions de la justice sur le projet qui soit va poursuivre comme il est en dimensionnant un peu moins haut, ou soit va être remodelé en 3 bacs de rétention. Fait quand même polémique, et sur place, les gens de la, on peut dire les milices de la FNSEA se sont mobilisés et veulent réaliser un blocus du site pour empêcher toute entrée et sortie des militants zadistes, quoi. Déjà ce week-end, il y a eu des petits échauffourées et surtout un montage et démontage successif de barricades sur des croisements de routes. Donc les activités des militants de Sivens à suivre cette semaine.
C'est FNSEA hein, qui tente oui. Effectivement de provoquer pour que les occupants du site soient expulsés. Hein. Je crois que c'est ça la situation. Hein.
Oui, puis comme ils trouvent que la police ne fait pas le travail qu'ils souhaitent lui voir faire assez vite, ben, ils s'y mettent eux-mêmes en se disant que ça stimulera peut-être l'ardeur des flics, ce qui effectivement peut arriver. S'il y a quelques affrontements, les flics vont s'en mêler. Et comme d'habitude, on sait de quel côté ils seront. Tchernobyl, Fessenheim, Tchernobyl, même combat. Une centrale en acharnement thérapeutique, en soins palliatifs, c'est comme on veut, Fessenheim, puisque déjà l'année dernière, 2 incidents l'ont bloqué. Elle est de 77, c'est la plus vieille centrale, il est temps de la mettre à la retraite, et pourtant, certains s'obstinent, et là, eh bien, ces jours, les 2 réacteurs sont à l'arrêt, un pour des défauts d'étanchéité, et l'autre en révision. C'est tout à fait inquiétant, pas plus que d'habitude, mais toujours autant, on ne cesse de le dire ici, que le nucléaire n'est pas une technologie sûre, et surtout quand elle est vieillissante. On va voir si, là aussi, le gouvernement finit par se décider à arrêter cette centrale, ce que tout le monde attend avec impatience.
D'autant que ça se fait sur base d'énormes pertes d'Areva. Areva a 5 milliards de pertes. Alors évidemment, c'est EDF qui s'occupe normalement des centrales, mais Areva les construit, et puis donc on voit bien la filiation totale entre Areva et EDF et le gouvernement et l'État qui est majoritaire dans les deux structures. Et déjà, on annonce aujourd'hui que ce déficit, cette perte chez Areva va produire sans doute, comme toujours, une compression de personnel, et que on parle déjà de 15% du personnel qui serait dégagé pour permettre de réduire les pertes.
Allez, un sujet qui n'est pas passionnant, mais puisqu'on a 2 minutes, on va l'aborder. C'est celui de la SNCF qui annonce à grand renfort de publicité que les PV pour absence de titre de transport vont passer de 35 à 50 euros. Et puis, paraît-il, toute une série de mesures de contrôle supplémentaires pour limiter une fraude qui, paraît-il aussi, s'élèverait à 300 millions d'euros. C'est bien peu de choses à côté de la fraude fiscale dans les paradis fiscaux, mais celle-là, autant l'autre est supportable, autant celle-là semble ne pas l'être.
Oui. Oui, 35 à 50 euros, des contrôles renforcés. Alors tout ça, c'est de la com, ça reste juste de la com, et on voit bien qu'une opération de com qui a été menée par la SNCF. Il est vrai que ça va passer de 35 à 50 euros, mais qu'est-ce que ça va changer? La personne qui n'a pas d'argent, pas titre de transport, elle ne payera pas. L'amende passera de 35 à 50 euros, elle ne la payera pas. Ça va finir en procès-verbal, qui ne sera pas payé, sachant qu'à peine 5% des procès-verbaux sont payés à la base. Tout ceci vise à quoi? Vise effectivement à dissuader la personne solvable qui voit qu'elle n'est pas contrôlée dans les trains, qu'elle l'est de moins en moins, puisqu'il y a de moins en moins de personnel, parce que dans le même temps, dans la région Rhône-Alpes, on va mettre en place des équipements sans agent, donc un peu comme le RER francilien, et donc elle sera de moins en moins contrôlée. Donc c'est juste un rappel à l'ordre pour ceux qui seraient tentés de frauder, alors que jusqu'à présent, ils payaient leurs billets. Quant à ceux qui ne payent pas, ils ne paieront pas ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, les choses ne changeront pas du tout pour la SNCF. Quant au contrôle renforcé, on demande à voir, alors que la SNCF nous annonce d'ici 2020 une suppression de quasiment 10 000 postes, et que surtout parmi les roulants, donc les contrôleurs, il y a aussi des suppressions qui sont annoncées. On voit mal à quoi vont ressembler ces opérations de contrôle. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que le plan de com a marché et très bien, puisque tous les relais y ont participé, la presse, les médias radiophoniques de grande écoute du matin, et les télévisions. Voilà.
Voilà, Robert, un autre sujet avant de donner quelques infos culturelles pour terminer le journal.
Non, allons-y, la culture,
allons-y,
dont les budgets sont réduits un peu partout dans les collectivités territoriales, et ça fait d'ailleurs partie des débats en cours. Campagne électorale. Alors, tu as la parole.
Ben, on va dire quelques mots du 17e printemps des poètes. C'est du 7 au 14 mars, donc ça commence cette semaine. L'insurrection poétique, Lyon et son agglomération. Il y a une invitation d'un certain nombre de poètes et en différents lieux. Après, je ne vais pas vous lire le programme là. Il faut vous consulter soit sur Internet, soit dans la presse. Il y a eu pas mal de choses d'annoncer, des lectures, des conférences. Et puis, il y a aussi, pour les amateurs de jazz, le festival Avo Jazz, qui bat son plein, lui, puisqu'il a commencé le 27 février, mais c'est jusqu'au 21 mars, avec... c'est autour de Avaux-en-Velin, bien sûr, au centre culturel communal de Charlie Chaplin, avec beaucoup de groupes d'artistes qui viennent, pas seulement de Lyon, mais d'un peu partout, en France et ailleurs. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La fête du livre de bronze, c'est du 6 au 8 mars à l'Hippodrome de Paris. Le thème, c'est « Qu'est-ce qu'on a en commun ?» La société, l'école, le travail, la politique, etc. Il s'agit de discuter, de réfléchir. 60 invités, 50 rencontres, une librairie. Enfin, ça devient une grosse institution qui fonctionne. Et puis pour les amateurs de chansons, on va dire un petit peu classiques, le 8 mars à 15h, salle de l'Amicale laïque de la Croix-Rousse, 8 rue Hénon, dans le cadre du mois de la poésie et de la journée de la femme, André Avon, c'est un homme, Michel Cartier, c'est un homme, Mireille Descours, c'est une femme, José Marti, je sais pas, Yvan Rousset, c'est un homme, Gisèle Vallaud, c'est une femme, tout ce monde accompagné par une femme, Denise Thévelet. Donc c'est le dimanche 8 mars à 14h, il y a toujours un coup à boire au milieu des chansons. Et le 15 mars, c'est le Secours Populaire qui vous proposera au Centre Culturel de la Vie Associative à Villeurbanne, là, un spectacle de chansons avec Lucien Delis et les coulisses de la chanson. Avec Michel Cartier en invité et l'inévitable Denise Thévenet au piano. Voilà, il me reste à vous remercier de votre écoute. Ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez le retrouver sur Internet. Bonsoir à vous et un dernier clin d'œil à Robert.